La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. La France bouge même pendant les fêtes de fin d'année. Pendant une heure, nous allons découvrir des talents français qui vont bien et qui se retroussent les manches, alors que la période, on peut le dire, est compliquée. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. Allez, on va mettre des paillettes et du brillant dans votre vie en ce mercredi. Notre invité, le patron de Mauboussin, il a relevé un pari qui est sur le papier totalement fou. Faire du luxe abordable dans le monde de la haute joaillerie. Alors, quelles sont ses recettes? On va en parler avec lui jusqu'à 14h.
À la une, les bijoux et gros plans sur des bijoux éthiques et responsables, des diamants de synthèse. C'est ce que fait la start-up Courbet. Et son cofondateur nous dira comment sont fabriqués ces diamants nouvelle génération.
Les grands joailliers de luxe français qui traverse des générations. C'est l'histoire de Mellerio. Imaginez, ils sont là depuis 4 siècles, des princesses jusqu'à la coupe des mousquetaires à Roland-Garros. Les créations Mellerio font le tour du monde et ce sera notre saga du jour dans La France Bouge.
Chaque jour dans La France Bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Aujourd'hui, avec notre partenaire CCI France, nous avons retenu Screen Art TV, des supports pour décorer nos écrans de télévision. Le pitch vers 13h45.
Et puis en fin d'émission, demain au travail, 2021 approche. Oui, enfin diront certains. Eh bien tiens, quels sont les grands secteurs qui vont recruter? On va tout vous dire avec Benoît Serre, vice-président de l'association des DRH.
La France bouge, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Oh là là, on va parler de luxe, on va parler de rêve aujourd'hui, puisque la France bouge, même pendant ses fêtes de fin d'année, et qui n'a pas rêvé devant des bagues serties de diamants, des boucles d'oreilles magnifiques, ou tout simplement flâner devant les vitrines des plus beaux joailliers français. Comment se porte ce marché? Est-ce qu'il repart malgré la crise? On en parle avec notre grand patron du jour, jusqu'à 14h.
Bonjour Alain Neymar.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de Mauboussin. Mauboussin, c'est 76 boutiques en France, 300 salariés. Votre marque existe depuis 1827. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mauboussin, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous êtes un des grands noms de la joaillerie en France. Mauboussin, c'est une marque de joaillerie haut de gamme. Là, nous sommes à la fin d'une année très spéciale. Comment ça va chez Mauboussin?
Ça va bien malgré une année particulière. Une année où on a été obligé de s'adapter, pour partie de se transformer, de se mettre dans un nouvel air du temps et de maîtriser en fait la question de la distance. Puisqu'en fait, pour une marque comme Mauboussin qui avait choisi depuis une vingtaine d'années la proximité, l'accessibilité, c'est clair que du jour au lendemain, la nouvelle situation, il fallait pouvoir s'adapter. On s'est adapté en deux temps. On s'est adapté lentement au début, au premier confinement, parce qu'on a été un peu surpris. Et puis, en fait, au deuxième confinement, celui qu'on est en train de finir de vivre, on s'est adapté peut-être plus totalement.
Quand vous dites « on s'est transformé », c'est-à-dire, c'est quoi le Mauboussin d'aujourd'hui par rapport à début du mois de mars 2020, ce qui paraît être un siècle?
En fait, on s'est d'abord transformé par le service au client. Le service au client, ça veut dire par exemple aujourd'hui que on livre à domicile et pas simplement pour les achats liés à Internet. On s'est adapté aussi grâce à Internet. On avait un site marchand. Le site marchand aujourd'hui a quasiment doublé en un an sa performance. On s'est transformé par le contact client au téléphone. C'est-à-dire qu'on a tous nos magasins ont en fait mis en place une procédure de call and collect, donc d'appel client et de possibilité pour le client de venir chercher sa commande ou de se faire livrer sa commande.
Le mois de décembre, c'est un mois stratégique. Il représente entre 20 et 22% de votre chiffre d'affaires de l'année. Il s'est passé comment? Il a bien démarré?
Oui, il a forcément bien démarré, puisqu'en fait, on avait un effet de rattrapage. Donc globalement, le mois de décembre nous permet, on le saura juste demain soir, mais nous permet peut-être de rattraper ce qu'on a perdu sur le mois de novembre.
Ah oui, donc quand même de rattraper, ce qui est pas mal. Vous êtes assez atypique dans ce secteur de la joaillerie. Vous acceptez de mettre les prix, de faire des publicités avec des prix et de faire des promotions. Vous avez participé au Black Friday, par exemple, au tout début du mois. Est-ce que vous avez senti une appétence de vos clients et clientes pour...
Oui, mais moi, j'ai pris un parti pris depuis 20 ans. C'est la transparence. La transparence, c'est de dire ce que je fais, de l'assumer, de considérer d'ailleurs que ce n'est pas le fait de l'assumer, c'est que c'est normal. C'est-à-dire qu'il est naturel que les marques fassent preuve de générosité en offrant, par exemple à l'occasion de Noël ou de Nouvel An, un cadeau à leurs clients. Mais est-ce que c'est aussi exceptionnel que ça? C'était fait avant différemment.
Mais vous en avez fait le fer de lance de votre stratégie même. Marketing, vous avez été les premiers à mettre les prix sur les publicités.
Oui, parce que ça me semblait naturel. On est une marque qui a pris un virage à l'époque très important dans un métier qui crée peu souvent. On a pris un rythme de création extrêmement rapide, puisqu'en fait, on lance des nouveaux produits toutes les 6 semaines.
Mais justement, Mobusson n'arrive pas à vous situer. Très haut de gamme, premium, luxe, et en même temps, vous n'appliquez pas les mêmes codes.
En fait, je pense que j'applique globalement les mêmes, finalement les mêmes arguments. À savoir que l'argument principal, c'est la création. Vous n'êtes jamais performant parce que vous êtes, entre guillemets, bon marché. Vous êtes performant parce que vous êtes créatif et que cette création rencontre l'émotion de la cliente ou du client qui a envie de vous acquérir.
Qui est finalement la cliente Mobusson ?
La cliente Mobusson, elle est...
Ou le client, parce que c'est bah beaucoup d'hommes.
On va traiter les deux. La cliente Mobusson, je dirais qu'elle est transgénérationnelle. C'est sûr que le cœur de cible de la marque, c'est plutôt une femme entre 25 et 49 ans, si on voulait raisonner marketeur. Mais la réalité est beaucoup plus large. On a des femmes plus âgées, on a des femmes beaucoup plus jeunes qui viennent acheter nos objets parce qu'elles se ressentent à l'aise avec nos créations, avec nos bijoux qui sont souvent minimalistes, qui sont aisément portables, aussi bien dans une vie sociale de travail que dans une vie sociale d'apparat.
Je rebondis sur ce que vous dites, Alain Aymard. À l'aise, les clientes Mobusson sont à l'aise. C'est vrai que ça peut être parfois compliqué de porter un bijou quand il a une certaine valeur.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la définition du bijou pour moi, pour une femme, c'est d'être une deuxième peau, un élément de sa carte d'identité. Et au fond, par conséquent, il faut que vous soyez à l'aise, quelle que soit la circonstance de votre vie dans laquelle vous le portez. Alors que le bijou, peut-être il y a 20 ans, quand je suis arrivé dans le métier, c'était plutôt un trophée. Et donc, on est peut-être un peu moins à l'aise avec un trophée qu'on peut l'être avec un objet identitaire.
Quand vous dites, au mois de décembre, on va peut-être récupérer une bonne partie de ce qu'on a perdu au mois de novembre, est-ce que vous avez senti, de la part de certains clients et clientes, tout simplement l'idée de se dire, on en a tellement marre qu'on va peut-être se faire le petit plaisir en plus qu'on ne se serait pas fait normalement si ça avait été une année normale, parce que juste, on a envie de se faire plaisir.
Pour moi, c'est évident que le problème principal de la crise qu'on vient de vivre depuis un an, c'est la perte du lien. Le fait de ne plus pouvoir, par exemple, embrasser vos petits-enfants, s'embrasser entre vous. Quelque part, ça rend également cette liaison sociale, cette liaison familiale, plus riche, plus importante, plus stratégique, plus vitale. Et au fond, l'achat de bijoux en cette fin d'année, c'est un élément d'appropriation d'une preuve du lien social. Au-delà de l'adversité, je marque mon attachement à l'autre et je lui offre quelque chose pour marquer l'amour que je lui porte ou l'amitié que je lui porte.
Alain Aymard, vous êtes le PDG de Mobusson, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge même pendant les fêtes et bien évidemment pendant les fêtes nous parlons bijoux aujourd'hui. Bah oui, on avait avec Elisabeth un peu envie de rêver. Nous sommes avec notre grand patron du jour, Alain Aymard, qui est le patron de Mobusson.
Et dans le monde de la joaillerie, il y a aussi de la place pour des nouveaux venus comme vous, Manuel Malène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur PDG de la joaillerie Courbet. Votre entreprise existe depuis 2017 et vous êtes situé sur la prestigieuse place Vendôme à Paris. Alors vous vous présentez comme une joaillerie éthique et écologique. C'est quoi un joaillier éthique ?
Alors nous on se présente plutôt comme un joaillier écologique. Alors écologique ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on utilise de l'or recyclé. Il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre, on le sait déjà. Et cet or, il provient des téléphones portables, des ordinateurs, des cartes graphiques. Il y a un petit peu d'or dans votre téléphone, on le récupère. Donc il y a ça. Et ensuite, on utilise des diamants de laboratoire, ce qu'on appelle malheureusement en France diamants de synthèse. Et ces diamants-là, en fait, il faut savoir que le diamant, c'est du carbone. Ce carbone, il y a des millions d'années sous terre, s'est retrouvé emprisonné. Et sous haute pression et température, il s'est cristallisé en diamant. Et on fait la même chose dans un laboratoire sans avoir besoin de faire les trous immenses que sont les mines de diamants.
Alors pardon ma question de total néophyte, mais est-ce qu'il est aussi beau ce diamant ?
Et c'est la même chose. j'ai envie de vous dire, et très souvent, pour faire un parallèle qui est peut-être un petit peu choquant, je dis, c'est la différence que vous avez entre un bébé éprouvette et un bébé. À part la naissance, tout le reste est pareil.
Donc vous comparez vos diamants à des bébés. Vous fabriquez des diamants de culture et vous êtes la première marque dans le haut de gamme à revendiquer cet emploi de diamants de culture et d'or recyclé à 100%. Est-ce que vous pouvez nous raconter les étapes pour en arriver à un beau bijou?
Les étapes, elles sont faites finalement les mêmes qu'une marque traditionnelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la création, ce qui est le plus important. Et c'est vrai qu'on est dans un métier où le beau prévaut, quoi qu'il arrive. Et en fait, souvent, la problématique quand on a, si on veut faire une marque écologique, c'est qu'on est obligé de faire des compromis. Des compromis soit esthétiques, soit qualitatifs sur les matériaux. Là, ce n'est pas le cas. C'est de l'or, du 18 carats, c'est du diamant. On utilise les plus beaux diamants qui existent. Et la création, l'artisanat derrière, les artisans qui vont concevoir, réaliser le bijou. Donc voilà, tout simplement.
Par exemple, vous nous faisiez rêver avec Elisabeth en nous disant qu'il y a de l'or dans nos téléphones portables. Oui. Donc là, juste après l'émission, on va aller les démonter.
On va essayer de les extraire.
Il en faut combien de téléphones portables pour faire une bague classique moyenne en or?
Oh, il en faut beaucoup parce que dans une carte graphique, dans un ordinateur, il y a à peu près un gramme. Donc vous imaginez, il faut une bague, ça va être une dizaine de grammes.
Mais vous allez les chercher où pour recycler tout cet or? Vous allez...
Alors non, en fait, ce qui se passe, il y a une société qui est spécialisée dans ce système-là parce que c'est extrêmement complexe de faire tout cela. Donc c'est vrai qu'on utilise l'or qu'ils nous fournissent.
Qui sont vos clients?
Nos clients, ils sont assez larges, il faut être honnête. Alors, Dans cette gamme relativement large en termes d'âge, il y a les millennials, ce qu'on appelle les millennials, hein, de 25 à 35, parce que là, il y a aussi cette rencontre avec le diamant qui est la bague de fiançailles. Et je pense que, autant ma génération, moi j'ai 54 ans, l'écologie n'était pas un sujet, autant chez eux, ces millennials, l'écologie est clairement quelque chose de fondamental qui rentre en ligne de compte.
Et c'est ce qui fait qu'ils entrent dans votre magasin et c'est la première démarche.
La première démarche, elle est clairement écologique, oui.
Alain Neymar, vous êtes le PDG de Mauboussin, je me tourne vers vous. Quel regard vous portez justement sur cette nouvelle forme de joaillerie? Là, on est face à une start-up qui fait du diamant, mais c'est du diamant de synthèse. Quel est votre regard là-dessus?
Je regarde globalement le métier de la joaillerie comme étant d'abord un métier de création. Je dis, à l'intérieur de ce métier de création, quels que soient les matériaux qu'on est amené à travailler les uns et les autres, l'important c'est d'exprimer au maximum la capacité créative et d'aller à la rencontre de l'émotion de nos clientes ou de nos clients. Ensuite, indépendamment de ça, il y a du soleil pour tout le monde. Et fondamentalement, ce qui est important pour moi, c'est que nous arrivions à rencontrer l'émotion des clientes et des clients.
Est-ce que malgré tout, la question de la traçabilité est une question que vos clients ou clientes vous posent? Vous dire, tiens, d'où viennent vos diamants?
En fait, il y a deux réponses à la question que vous posez. La première, sur la traçabilité. On a tous souscrit au traité qui faisait de telle manière à ce qu'on sache que nos diamants n'étaient pas des diamants, entre guillemets, du sang à l'époque. Mais quand vous traitez de la traçabilité, vous traitez notamment pour nous du métier qui consiste à remonter des diamants historiques ou des pierres historiques qui venaient d'héritage sur des nouvelles bagues. Et nous, on demande en fait à nos clients, quand on ne connaît pas l'origine de la pierre, de les faire repasser en laboratoire pour savoir ce que c'est, de manière à mettre notre nom sur la nouvelle monture.
Et ça arrive souvent qu'on vous demande ce genre de travail?
Ça nous arrive régulièrement parce que vous avez de plus en plus de gens qui souhaitent pouvoir réutiliser des pierres qui étaient sur des bijoux familiaux.
Manuel Malène, vous êtes le PDG cofondateur de Courbet. Une fois que vous avez lancé ce beau projet hein, qui est de créer des bijoux écologiques, la suite, ça va être quoi pour vous?
La suite, c'est de le faire connaître. Ça, c'est la première chose. Ça va être d'aller à l'étranger. Parce qu'en fait, durant ces 3 ans, on a fait un petit peu, avec mon associé, le test and learn de ce qui fonctionnait, le nom, la communication, les produits, etc.
La concurrence, donc.
La concurrence également. Et en fait, là, ça va être la prochaine étape, c'est notre lancement en Chine.
Mais pardon, vous êtes une start-up, vous vous revendiquez comme une start-up. Pourquoi vous vous êtes installé Place Vendôme?
La Place Vendôme, c'était un petit peu pour disrupter. Parler un petit peu de disruption, vous en parliez tout à l'heure avec Monsieur Neymar. C'était aussi pour disrupter cela. Mais c'était aussi la Place Vendôme, c'est de l'or, c'est des diamants. Il y a de la création. On utilise le top des diamants, le top de l'or. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas Place Vendôme. On connaît les codes, on les respecte. Donc il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas place Vendôme.
Et pourquoi Courbet ? Pourquoi vous avez décidé ce nom ? C'est en référence au peintre ?
Oui, c'est en référence au peintre. Ce peintre qui avait fait l'origine du monde, qui avait un petit peu disrupté, quelque
déjà.
Part en 100 ans. On ne peut toujours pas mettre le tableau sur Facebook.
Oui.
Et puis ce qu'on sait moins, c'est que Gustave Courbet, il a été communard. Et en tant que communard, c'est lui qui a fait tomber la colonne Vendôme. Donc quelqu'un qui a fait bouger la colonne Vendôme, la place Vendôme, ça nous intéressait.
Une marque remplie de symboles. Merci à vous Manuel Malène, vous êtes le PDG cofondateur de Courbet.
Et Alain Aymar, le patron de Mauboussin, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est très heureux de vous accueillir ici sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France bouge. Et peut-être encore aujourd'hui, plus que d'habitude, on parle de bijoux, on se fait plaisir aujourd'hui. Grâce à vous Alain Aymar, je rappelle que vous êtes le patron de Mauboussin. Alors vous nous avez parlé de bagues, vous nous avez parlé de colliers, vous nous avez pas parlé de montres. Et pourtant quand on regarde ce qui marche en ce moment chez Mauboussin, l'horlogerie, allez je vais le dire, est un véritable carton en ce moment chez
vous.
Ouais.
En fait, c'est pas du tout une activité nouvelle, mais c'est resté pendant des années et des années une activité marginale qui était faite au travers de montres qui n'étaient que des joyaux. Ça n'était que des montres de joaillerie qu'on faisait pour des clients qui nous faisaient des commandes spéciales. Et puis ensuite, on a développé un peu une ligne d'horlogerie jusqu'en 2015 où on faisait à peu près 1000 montres par an. Et puis j'ai décidé de rentrer dans l'arène, de bousculer un peu les règles. Et aujourd'hui, l'horlogerie, on va finir cette année probablement aux alentours de 38 000 montres vendues.
Alors avec le succès de ces montres, est-ce que vous comptez développer davantage la partie horlogerie pour 2021 ?
Je compte bien développer sur 2021 la partie horlogère, toujours avec la même recette, entre guillemets.
C'est quoi ?
C'est de laisser libre cours à la création, c'est-à-dire c'est de lancer des nouveaux produits régulièrement, toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois, en amplifiant l'horlogerie pour hommes, parce qu'on a surtout là surfé sur l'horlogerie féminine. On a quelques modèles pour hommes qui marchent. Mais je pense que l'année qui vient, on est capable de sortir avec 2 nouvelles collections que j'ai là dans mes cartons. On est probablement capable de bouger aussi l'horlogerie masculine.
Comment vous expliquez ce succès pour les montres ? Ça marche parce que vous avez décidé d'en faire une stratégie et donc vous avez vraiment très bien travaillé le produit. Ou il y a par ailleurs une appétence pour les montres, notamment de la part d'une clientèle plus jeune qui est votre clientèle chez Mauboussin ?
Ouais, en fait, je pense qu'il y a probablement plusieurs explications. Mais c'est clair que quand on rajeunit la clientèle, l'horlogerie devient un élément important parce qu'une partie de cette carte d'identité, une partie de cette seconde peau, des femmes d'aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup l'objet qui leur permet de voir l'heure. Indépendamment de ça, globalement, c'est un objet facile, hein, c'est un objet de cadeau facile. C'est plus difficile d'offrir une bague quand on ne connaît pas la taille du doigt.
Vous parliez d'un objet de seconde peau, on va venir aussi aux objets de seconde main. Nous, on le voit en ce moment dans la France bouge, il y a énormément de marques qui, face à l'offre de la seconde main, décident de monter leur propre plateforme de produits de seconde main. Est-ce que vous, Alain Aymar, chez Mauboussin, vous envisagez aussi d'ouvrir ce marché de la seconde main ?
Non, objectivement, aujourd'hui, je ne l'envisage pas, mais je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que des propositions qui consisteraient demain à offrir aux gens à reprendre leur montre d'avant ou leur bijou d'avant, etc. Pourquoi pas si ça devient un élément fondamental de l'ère du temps. Voilà. Moi, je n'en trouve pas aujourd'hui l'utilité. Mais j'ai une autre raison de ne pas en trouver l'utilité. C'est que moi, je pense, si vous voulez, qu'un acte d'achat d'un bijou ou d'une montre, c'est un acte d'émotion,
c'est
un acte émotionnel. Pourquoi sacrifier son passé au présent ? C'est ça l'histoire. C'est que pourquoi vous amputer d'une partie du passé pour avoir accès au présent ? Le présent, il faut vous permettre d'y accéder sans vous obliger pour autant à vous priver d'une partie de votre histoire.
Vous disiez notamment là sur vos montres que ce qui marche, c'est les modèles hommes. Les hommes portent de plus en plus de bijoux. Est-ce que vous pourriez aussi développer ce genre de gamme du côté de chez Mauboussin ?
On a développé pour hommes, et on développe pour hommes, et c'est une grosse partie de nos ventes en hommes, des bracelets. En fait, le bracelet, c'est vraiment l'objet complémentaire pour l'homme à la montre. Avant, il achetait essentiellement une montre, maintenant, il achète du bracelet.
Vous avez rapatrié une partie de votre production en France. Quelle est la part de vos bijoux aujourd'hui produits en France ?
J'ai rapatrié ma production en Europe depuis 2014. Aujourd'hui, je fais quasiment 100% de ma production en Europe et j'en fais les deux tiers en France. Le reste étant fait en Italie et en Espagne.
Où en France ?
Alors là, pas mal dans la région lyonnaise, mais je fabrique aussi dans l'Est et en région parisienne.
Vous avez lancé aussi une gamme, là, beaucoup plus entrée de gamme, hein, puisqu'on peut s'offrir chez vous une bague en diamant ou un bracelet. Mec, je te kiffe. C'est ça, Mauboussin ? C'est aussi toutes les générations où, en faisant venir des gens qui n'auraient pas osé pousser la porte d'une joaillerie comme la vôtre, avec des produits plus entrée de gamme ?
Le fait que l'objet ne soit pas excessivement cher, ça n'est que la virtuosité. D'une part de celui qui le crée, et d'autre part le désir de modérer le taux de marge de manière à le rendre accessible. Mais en sachant que quand on a 78 magasins en France, qu'on est présent dans beaucoup de villes moyennes, on a la vocation à apporter la création à proximité des gens.
Alors quand on a regardé attentivement votre compte Instagram, le compte Instagram de Mauboussin en préparant cette émission avec Emmanuel, vous avez mis en avant en décembre la couronne du centenaire de Miss France. Je vous vois sourire, c'est important pour vous d'être présent aussi dans ces grands événements français ?
Écoutez, bien sûr que c'est important et en plus,
mais au-delà de la...
j'avoue que j'ai été très fier.
Au-delà de l'image ?
Non mais en fait j'ai été très fier d'être contacté pour pouvoir être choisi. Pour être celui qui allait créer la couronne pour les 100 ans de Miss France. Je trouvais que c'était important pour une maison comme Mauboussin, créée en 1827 en France, une maison à capitalisme français, une maison qui aujourd'hui s'inscrit dans la volonté de la relocalisation en France, qui s'inscrit dans le cadre du développement de son réseau de distribution en France et partout, et avec notamment la perspective de la reconquête des centres-villes, de la revitalisation des centres-villes. Et je trouvais qu'au fond, c'est quoi Miss France ? Miss France, c'est un concours qui permet à travers le pays, quel que soit le lieu, à toute une génération de jeunes filles, de concourir à un concours de manière à être élu, être l'élu. Moi, je trouve que c'est bien que Mauboussin puisse accompagner cette démarche-là. Vous savez, j'ai coutume de dire que, n'étant pas un héritier, je suis arrivé à la place où je suis aujourd'hui, essentiellement grâce à l'école républicaine. C'est la même histoire. C'est une autre forme de l'école républicaine que celle de l'élection de Miss France.
Grâce à vous, en plus, on apprend que c'est pas du toc, du coup. C'est...
Ben, vous disons pensez que... ça, Emmanuel ?
Ben, frère, franchement, quand on voit comment ils tiennent sur la tête des candidats, bien souvent, on se demande.
C'est un très bel objet. C'est vrai que nous avons déjà fait des couronnes pour des princesses. C'était un clin d'œil phénoménal de pouvoir, après avoir fait le diadème de la princesse Marie, de faire celui de Miss France.
Alain Neymar, Mauboussin, quand on vous entend parler de Miss France, on vous entend parler des hommes, on vous entend parler de ces jeunes filles qui portent leur bague de fiançailles grâce à vous, vous touchez toute la famille, vous touchez toutes les générations.
Bien sûr, c'est forcément toutes les générations, parce que c'est une maison qui a traversé le temps, qui s'est inscrite dans ce tissu. Français, dans ce tissu de la tradition française, dans ce tissu de la tradition familiale française. Et je trouve que c'est très important.
Et dans La France Bouge, chaque jour, nous découvrons une marque qui fait la fierté de notre industrie française, une marque qui a su traverser des générations. Vous connaissez Mélirio, l'incroyable joaillier de luxe qui a compté parmi ses clientes Marie-Antoinette et l'impératrice Eugénie.
Bien sûr.
Et Mélirio, c'est la saga du jour dans La France Bouge et cette belle entreprise familiale. C'est le nouvel épisode du podcast Marque de Famille que je ne peux que vous conseiller, ce podcast Europe 1 Studio que vous portez, Elisabeth Assayag. Chaque jour, on entre dans les coulisses des familles qui se cachent derrière tous les grands noms que l'on peut connaître. Je vous conseille notamment cette période de fête, si vous avez là un petit peu de temps, d'aller les écouter. C'est sur toutes les bonnes plateformes. Et justement, tiens, avant que vous alliez tous les écouter, on va vous en faire écouter un, celui de Laure Isabelle Mélirio, la présidente et directrice artistique de Mélirio. Mélirio, une véritable histoire de famille.
L'histoire extraordinaire des Mélirio commence en 1515. Cette année-là, Jean-Baptiste Mélirio, le pionnier, décide de partir au hasard des routes du royaume de France. Il est alors un simple colporteur, avec dans ses malles des épingles pour les cheveux, des articles de mercerie et quelques broches. Et il en faut du courage pour se lancer ainsi, car les racines de Mélirio se trouvent en réalité de l'autre côté de la frontière, à Craveggia, dans le Piémont italien, à quelques kilomètres du lac Majeur.
C'est un village de montagne, très rude, mais avec à l'intérieur une richesse incroyable. Il y a des fresques murales dans les maisons et des églises, un foisonnement de décors rococo. Je pense que ça donne un caractère très fort et ils ont connu beaucoup d'épreuves et ça leur a donné, je pense, une force de résilience importante.
Deux siècles et demi plus tard, les Mélério ont désormais une échoppe à Paris. Vous vous dites peut-être que de chemin parcouru. Mais ils ne sont pas les joailliers officiels du royaume, loin s'en faut. Ce jour de 1780, Jean-Baptiste Mélério n'est qu'un vendeur parmi tant d'autres devant le château de Versailles. Quand soudain, la légende raconte qu'un carrosse s'arrête juste devant lui. Une dame de compagnie en descend. Elle s'intéresse à un large bracelet serti de petits rubis qui encadre 7 camées, imposant et délicat à la fois. Ce cadeau extraordinaire, elle va l'offrir à Marie-Antoinette. Cette fois, les Mélério s'approchent vraiment du pouvoir royal. Mais quand la Révolution française survient, il ne fait pas bon avoir travaillé avec la monarchie déchue. François Mélério, le neveu de Jean-Baptiste, n'a pas le choix. Il doit fuir, et vite. On raconte qu'il serait même passé par les toits ce jour-là. Mais il ne veut pas tout abandonner. Pendant quelques années, il perfectionne son art aux côtés d'un des plus grands joailliers de Milan. Et quand il revient en France en 1799, c'est pour créer sa première vraie boutique. Quelques années plus tard, on lui présente une nouvelle cliente. Son nom ? Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, l'épouse de Napoléon. Sous l'Empire, les bijoux imposants et colorés sont à la mode. Quant à l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, elle n'hésite pas à pousser plusieurs fois par mois la porte de Mélério pour commander de nouvelles parures. Elle les porte pour son plaisir et pour promouvoir à sa façon le Made in France.
On reconnaît un bijou Mélério à sa délicatesse, souvent un côté très naturaliste. On a toujours voulu imiter la nature au plus près. Ce sera quelque chose de très floral, végétal, beaucoup de couleurs aussi.
Il faudrait des jours et des jours plongés dans les archives soigneusement conservées par la famille Mélério pour faire la liste de toutes les clientes qui ont porté ces bijoux. Mélério a été le joaillier officiel du roi d'Italie quand il a voulu un diadème pour sa bru Marguerite de Savoie. Ou encore celui du Maharaja de Capurtala quand il rêvait d'un bijou en forme de paon aux plumes chatoyantes. Et celui de la princesse de Monaco, de la reine d'Espagne ou des Pays-Bas, de l'empereur de Russie ou du vice-roi d'Égypte. Mais la liste complète est aujourd'hui un secret bien gardé.
Va-t-il chercher l'ace ? Oui, il sert au centre. Il monte au filet.
Il a gagné ! Changement d'ambiance. Nous sommes le 5 juin 1983 et dans une chaleur étouffante, un homme s'écroule à genoux sur la terre battue de Roland-Garros. C'est Yannick Noah, évidemment, qui vient de remporter le tournoi. Vous cherchez les têtes couronnées dans le public ? Vous n'y êtes pas. Mélério s'invite dans l'histoire juste après cette victoire, au moment de la cérémonie de remise du trophée. Car l'immense coupe des mousquetaires, tout comme les épées de certains académiciens et le ballon d'or, est aussi une création de la maison Mélério.
Je suis sûr qu'on vient de vous donner envie de l'écouter en plus long. Eh bien, ça tombe bien, vous allez sur toutes les bonnes plateformes, et notamment sur Europe 1, pour redécouvrir ce podcast et plein d'autres podcasts marques de famille portés par vous, Elisabeth Assayag.
Alain Neymar, PDG de Mauboussin, vous restez avec nous. Vous allez porter maintenant votre casquette d'entrepreneur avec le pitch, parce que l'une des promesses de l'émission, c'est aussi de découvrir des nouveaux talents.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge et même pendant les fêtes, on découvre des entrepreneurs qui osent, qui se lancent même en ce moment. Et nous sommes pour cela toujours avec notre grand témoin du jour, Alain Neymar, qui est le patron de Mauboussin. Et maintenant, Alain Neymar, vous allez mettre votre casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneur, et vous allez pouvoir conseiller, allez, notre candidate du jour.
Bonjour Sophie Roybin.
Bonjour.
Merci d'avoir déposé votre candidature pour les trophées La France bouge. Vous avez 47 ans, vous venez de Lyon et vous êtes la fondatrice de Screen Art TV. Vous en aviez assez des gros écrans de télévision dans le salon. Vous avez voulu en faire un élément décoratif. Vous allez tout nous raconter. C'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Bonjour. Mon concept innovant est parti d'une question simple. Comment cacher nos écrans de télé et d'ordinateur sans avoir à laisser la télé allumée toute la journée. Pour répondre à cette question qu'on s'est tous à peu près posée une fois dans sa vie, j'ai créé Screen Art TV, ou l'art d'habiller sa télé. Habiller, en fait, ça veut dire ajouter un élément extérieur et amovible pour faire disparaître cet écran noir et moche de notre salon. On propose 3 technologies adaptées à votre écran, qu'il soit en fait posé sur un meuble, mural, plat ou incurvé. On a tous un écran différent. Le site Screen Art TV permet de choisir un visuel parmi 300 créations originales ou, si ça ne vous plaît pas, de créer vous-même votre produit en téléchargeant vos photos. Nos produits sont sur mesure, accessibles, responsables, citoyens. On propose le premier prix à 49 euros.
Stop, je suis désolé, c'est moi qui suis le gardien du temps. Vous n'avez pas dit quand même un point extrêmement important, parce que certains se disent, c'est quoi? C'est une housse, c'est un film adhésif repositionnable autant de fois qu'on veut, c'est ça?
Alors en fait, on a 3 produits. Donc en effet, on a soit un produit qui ressemble fortement à un tableau qu'on vient poser en effet sur le dessus de votre écran. Donc ça, c'est un tableau à la place de votre télé. Et aussi, on a le film repositionnable à l'infini. Ça, c'est si vous avez envie de quelque chose plutôt qui va se rouler pour pouvoir le ranger quand vous avez des amis le week-end. Et c'est très facilement positionnable.
Finalement, vous avez envie de faire de la télévision un élément décoratif, un tableau au sein de la pièce où se trouve la télé.
C'est ça, c'est que la télé...
Qu'elle se fonde dans l'intérieur de la pièce.
Même pour faire que ça soit joli. On a tous dans l'idée, au niveau de la déco, on achète des tableaux, mais en fait, la télé, ce gros truc noir qui est de plus en plus gros, d'ailleurs...
C'est clair que c'est pas très joli.
On s'est habitué, parce que je crois qu'en France, il n'y a pas vraiment de solution.
Pourquoi en France ?
Alors, à l'étranger, c'est pareil. Simplement, c'est vrai pour l'instant, moi, mon marché est plutôt français. Mais à l'étranger, à part les télés qu'on a aussi
Samsung
en France...
Samsung avait développé sur ses propres télés un système de miroir ou de cadre, justement,
alors,
qui est...
Ouais, c'est un
mais
cadre.
Qui était très cher.
Ça représente un tableau. Et moi, l'idée, c'est toucher les 27 millions de Français. Avec cette solution-là, il faut racheter une télé.
Bien sûr.
Et en plus, il faut qu'elle reste allumée. Alors que moi, c'est sur télé éteinte. Donc, en termes d'écologie... Et puis ça coûte une fortune, franchement.
Bien sûr.
Alors Sophie Roibin, je vais vous présenter Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Sophie, bonjour Emmanuel.
Bonjour. Nathalie Carré, elle nous est très précieuse, Sophie, parce qu'elle est chargée de l'entrepreneuriat à la CCI, à la Chambre de Commerce. C'est notre bijou à nous, on peut le dire. On va la baptiser la Nathalie. Et elle épluche chaque jour les dossiers attentivement. Plus sérieusement, on va écouter les forces et les faiblesses de Screen Art TV, Nathalie.
Oui, alors 4 points positifs. Alors c'est vrai que c'est un vrai sujet de décoration. Il n'y a pas un magazine, il n'y a pas un site de déco qui ne propose pas X solutions pour cacher sa télé. Mais la plupart des solutions nécessitent des aménagements du mur, l'achat d'un meuble, alors que vous, votre solution est très simple et s'adapte donc à tous les intérieurs. 3e point positif, la possibilité d'utiliser d'autres images que celles que vous avez en boutique ou de faire son habillement avec ses propres photos. Et puis le tarif qui rend votre solution accessible au plus grand nombre puisqu'on va de 49 euros à 200 euros à peu près.
Donc...
Je mettrai un point amélioré, c'est le site. On est dans un sujet de déco. Or, le site, le design du logo, la police de caractère utilisée font plus technique que déco design. On a trop l'impression d'acheter un produit très technique plutôt qu'une solution de décoration. Par ailleurs, il sera intéressant d'ajouter des articles sur le sujet pour augmenter le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Parce que là, quand on vous cherche sur un moteur de recherche, en fait, on ne vous trouve pas, on trouve que des articles qui expliquent comment cacher.
Merci Nathalie, c'est toujours très très précieux vos conseils. Sophie, c'est extrêmement intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Le site internet, il est trop technique. Hein. Ouais. Il faut plus davantage se présenter comme un site de décoration plutôt qu'un site technique. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
En fait, c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à développer les 3 produits que je propose et finalement, c'était compliqué techniquement. Et c'est pour ça que proposant 3 produits, quand j'ai commencé le site, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'expliquer techniquement comment ça marche. Et qu'on ne pense pas, premièrement, déjà que c'est à l'intérieur de la télé, parce que souvent, on a l'habitude de voir de la déco, mais c'est vraiment, en effet, le produit où on projette à l'intérieur. Et le fait qu'on puisse le ranger, le fait que ce soit joli, enfin, techniquement, ça a demandé pas mal de développement. Et c'est vrai que, pour moi, le côté que esthétique risquait de perdre les gens et de se dire, bah ouais, c'est joli, mais techniquement, comment ça marche ? Parce que moi, je me suis vraiment creusé la tête.
Parce que je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, parce que, pour être très honnête, ça m'a intéressé comme client, votre produit. Et quand je suis allé sur votre site, je me suis dit, ouais, on a aussi besoin de rêver, quoi, de se dire, ça va être vraiment beau chez nous.
Ça ne nous fait pas assez rêver, et c'est important de faire rêver. Je me tourne vers vous, Alain Neymar, PDG de Mauboussin. Vous allez mettre votre casquette de coach. Quelles sont vos remarques par rapport à ce projet ?
En fait, la seule expérience que j'ai, moi, d'une télé habillée, c'était Philippe Starck qui mettait ses télés dans les miroirs des chambres d'hôtel qu'il décorait, que je trouvais absolument exceptionnel. Je me disais, c'est quand même une révolution. Et j'étais très, très surpris qu'en fait, ça ne se soit jamais vraiment commercialisé, mais ça devait coûter une tonne.
Ouais.
Ouais, parce comme tous nos pitchers, vous avez oublié de donner le prix. Alors, je pense que tout le monde le fait exprès.
Non, j'ai dit à partir de 49 euros, ils m'avaient coupé.
Ah, et ben ça va jusqu'à 220 euros, oui. 220 euros pour un écran de 75 pouces, si j'ai bien regardé
le
site.
49, c'est 22 pouces, et après, plus c'est grand, plus c'est cher. ce système-là, il coûte une fortune, il vaut quasiment 2000 euros. Votre télé, elle doit être murale. Si vous avez une télé sur un meuble, ça ne marche pas. Et en plus, en fait, vous perdez 20% de la qualité d'image. Et aujourd'hui, on achète des OLED, des télés avec super qualité. Et c'est vrai que de mettre un miroir devant, et puis ça coûte très très cher, 4 fois plus cher qu'une télé. 2000 euros, c'est pour une petite télé.
Ça va coûter une fortune. Donc en fait, moi, je pense que, effectivement, c'est ce que vous avez dit, l'attractivité, vous l'aurez en ayant une possibilité d'avoir des partenariats avec des artistes que vous pourrez mettre en avant.
C'est une très bonne idée, ça.
En fait, ce que font beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui, notamment par exemple dans la chaussure ou autre, on essaye de customiser avec des artistes qui font des bijoux ou qui font des... C'est d'avoir en fait des gens qui vont vous faire... que vous allez pouvoir mettre en avant parce qu'ils sont connus et qu'au fond, les gens vont venir contempler leurs œuvres sur votre site. Et puis ensuite, une deuxième solution, c'est la vraie customisation. C'est-à-dire d'offrir en réalité à vos clients la possibilité de customiser, de faire eux-mêmes leur habillage, voire de vous le donner à distribuer. Si je suis capable de faire un dessin qui rentre dans votre technique, que vous m'offriez la possibilité de l'exposer sur votre site.
Après, c'est vrai que les partenaires, j'en cherche. J'en ai pas beaucoup. Et puis, ça demande un financement.
Après cette émission, vous en aurez plein.
Ça s'appelle Screen Art TV. Merci à vous, Sophie Roivant. Vous souhaite bonne chance dans votre aventure. Merci à vous, Nathalie Carré aussi.
Et vous nous donnez surtout de vos nouvelles. Et si vous voulez, vous aussi, candidater et venir comme ça pitcher à La France Bouge, une seule adresse: e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Alain Aymard, PDG de Mauboussin. Suite et fin de notre émission. Vous restez encore quelques minutes avec nous.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Ça passe décidément chaque jour trop vite. C'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le patron de la maison Mauboussin, Alain Aymard.
Et demain au travail, parce que le monde change et nos entreprises aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association des directeurs de ressources humaines. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a voulu se poser une question. C'est la fin de l'année 2020. Allez, quels sont les secteurs qui recrutent ? Faites-nous rêver un petit peu.
Eh bien, il y en a.
Ah, c'est vrai ?
Contrairement
c'est déjà
à ce
la bonne nouvelle.
C'est une très,
déjà,
très bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle pour la fin de l'année, vous voyez.
Alors,
vous nous étonnez, vous n'êtes pas bougon aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Évidemment, la santé, notamment les EHPAD sous le double croisement de la démographie et puis des besoins quand on a la crise sanitaire. L'agroalimentaire. Parce que les niveaux de production ont monté en agroalimentaire, et donc il y a beaucoup de demandes. Vous avez la grande distribution de proximité, les métiers de la logistique, avec notamment le recours majeur au e-commerce et à tous ces éléments-là, forcément.
On va avoir besoin de camions et de tuyaux pour transporter les colis.
On a besoin de camions, logistique, transporteurs routiers, travailleurs de plateformes, etc. Les plateformes téléphoniques, parce qu'il y a de plus en plus de relations clients en ligne. Et enfin, évidemment, tout le milieu, on va dire, digital, informatique, avec, contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs, pas forcément que des bacs plus 5 ou 12, mais aussi des bacs plus 1, des bacs plus 2. Donc, en fait, il y a des secteurs qui recrutent. Et puis le BTP, sous deux aspects. D'abord, le BTP ne s'est jamais vraiment arrêté. Et la deuxième chose, le plan de relance du gouvernement prévoit, dans les 100 milliards, un certain nombre de milliards qui sont consacrés, vous savez,
à la rénovation énergétique,
à la croissance verte, à la rénovation des bâtiments.
Il y en a 4 milliards, par exemple, rien que pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est parce qu'au-delà de ces secteurs qui fonctionnent déjà bien, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont à l'arrêt et qui, selon vous, vont repartir, je crois aussi, Benoît.
Alors, effectivement, il y a un certain nombre de secteurs, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer, qui vont repartir au moment où on va réouvrir les activités. Si vous voulez, par exemple, tout le secteur des bars-restaurants qui sont extrêmement fracassés aujourd'hui, il demeure quand même que quand ça va repartir, ça va réembaucher massivement après avoir mis fin au dispositif de chômage partiel qui existe. Donc vous aurez des remontées. Puis il y a un autre phénomène très intéressant, c'est que vous avez une montée assez forte des offres d'emploi en province.
C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont émerger, des régions.
Il y a des zones qui émergent, notamment les zones de villes moyennes, ou des types Orléans, Tours, Nîmes, des choses comme ça.
Poitiers.
Parce que par le biais du e-commerce, par le biais de la logistique, par le biais des transports et par le biais du fait que vous pouvez de plus en plus travailler avec des offres à distance, vous n'êtes plus obligé de vous mettre en Île-de-France où ça vous coûte une fortune au mètre carré.
Donc
on voit monter, vous prenez la Bretagne, vous prenez toute la région de Poitiers-Angoulême par exemple, j'ai ces deux exemples en tête, ce sont des secteurs qui montent en recherche d'emploi parce qu'elles ont un avantage concurrentiel évident sur le coût de la vie.
Moi, ça nous fait
et
du bien, tout ce que
vous nous dites.
Les
gens sont aujourd'hui prêts. Et oui, c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est la France qui bouge.
C'est ça, la France qui bouge. Alain Némarre, PDG de Mauboussin. On recrute chez Mauboussin en 2021?
On a continué à recruter normalement en 2020 et on recrutera sur 2021.
Quel type de poste?
Bon, en commerce. C'est clair que le réseau est très consommateur d'emplois et donc c'est pas un problème ça.
C'est intéressant, c'est ce que disait Benoît Serre là, sur ces nouvelles villes qui vont avoir peut-être plus de monde grâce à la liberté qu'offre le télétravail. Vous, c'est un pari que vous avez fait. Vous disiez tout à l'heure déjà d'un mot, nous on veut essayer de revitaliser les centres-villes moyens. Je crois que vous êtes à Poitiers, vous êtes
oui,
dans
tous... Oui, je suis à Poitiers, je suis à Angoulême, c'est pour ça que ça m'intéressait. Je suis à Poitiers, à Angoulême, à La Rochelle,
qui était un acte de développement un peu à contre-courant de ce que fait le métier chez vous, puisqu'il y a rarement des grands joailliers dans ces centres-villes, c'est souvent des bijoutiers indépendants qui sont là.
Oui.
Est-ce que vous allez poursuivre cette stratégie d'implantation?
Tout à fait. Aujourd'hui, on a donc un peu moins de 80 magasins et je pense qu'on montera 100 magasins sur le territoire.
D'ici à combien de temps?
Là, d'ici 24 mois.
Ah oui, donc du coup, ça va être une création de magasins extrêmement rapide.
Donc création de magasins et création d'emplois.
Plus facile parce qu'il va y avoir des beaux commerciaux qui vont tomber et donc vous allez pouvoir profiter d'une certaine manière. En tout cas, vous allez pouvoir saisir des opportunités.
Tout à fait.
Justement, on a beaucoup parlé pendant cette crise des difficultés avec les bailleurs, c'est-à-dire pour obtenir des baisses de loyers pendant les moments où c'était fermé. Le gouvernement avait dit notamment que tous ceux qui accepteraient d'annuler le loyer du mois de novembre auraient un crédit d'impôt de 50%. Est-ce que vous avez pu en bénéficier facilement
du côté de Mauboussin ? C'est le vrai sujet des difficultés du commerce. C'est d'avoir des bailleurs qui ont été assez sourds ou partiellement entendants. Et surtout par rapport à des acteurs moyens du commerce. Parce que vis-à-vis des petits commerçants, ils avaient des contraintes qui étaient des contraintes directement données par Bercy. Alors qu'en réalité, pour des gens de nos tailles à nous, on avait en face de nous des bailleurs qui ont été, pour certains d'entre eux, compréhensifs, pour d'autres, beaucoup moins.
Alain Némarre, comment vous voyez l'année 2021?
C'est avec perplexité.
Mais avec envie.
Avec perplexité, mais
avec
bon.
Des projets, vous allez ouvrir des
on va continuer,
des magasins, vous allez recruter.
Moi, je suis sûr qu'on va reprendre le chemin de la croissance normalement, parce qu'on a quand même digéré les contraintes nouvelles qui nous sont imposées. Donc on va les faire nôtres et on s'est adapté et on va s'adapter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps va durer en fait la situation sanitaire. C'est-à-dire que si en fait le confinement devait se reproduire une troisième fois, il faudrait à ce moment-là qu'on considère que c'est un rythme de la vie annuelle. Imaginons un système dans lequel vous soyez obligé de fermer 5 semaines tous les 3 mois, parce qu'on n'arrive pas à vacciner suffisamment, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la pandémie. Il faut mettre dans un rythme annuel du travail.
Merci à vous en tout cas, Alain Némarre, PDG de Mauboussin, d'avoir été le grand patron de La France Bouge aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Et Elisabeth, merci. On se retrouve demain. On va parler de quoi?
Eh bien, on va se retrouver demain. Demain, c'est le 31 décembre. Alors évidemment, on va manger. On va manger avec des produits de fête. Et notre invité exceptionnel, ce sera
le patron de Le Nôtre.
Le patron de Le Nôtre. À demain, le flash suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1. Écoutez le monde changer.